Les dernières vacances de Mémé coïncidèrent avec la période de deuil qui suivit la mort du colonel Aureliano Buendía. Dans la maison fermée, il n'y avait plus place pour les fêtes. On ne parlait qu'en susurrant. Il fallait se taire à table et réciter le rosaire 3 fois par jour. Et dans la chaleur de la sieste, les exercices au clavecin avaient eux-mêmes des résonances funèbres. Malgré la secrète hostilité qu'elle vouait au colonel, ce fut Fernanda, impressionnée par la solennité avec laquelle le gouvernement célébra la mémoire de son ennemi disparu, qui imposa le deuil dans toute sa rigueur. Comme de coutume, Aureliano II s'en revint coucher à la maison pour la durée des vacances de sa fille, et il fallut bien que Fernanda fît quelque chose pour recouvrer ses privilèges d'épouse légitime, car l'année suivante, Mémé trouva chez elle une petite sœur nouvellement née qu'on baptisa, contre le gré de sa mère, du nom d'Amaranta Ursula. Mémé avait achevé ses études. La virtuosité avec laquelle elle interpréta des thèmes populaires du XVIIe siècle lors de la fête organisée pour célébrer le couronnement de ses études et qui marqua la fin de la période de deuil, montra qu'elle avait bien mérité le diplôme qui la consacrait claveciniste. Plus que son art, ce fut sa dualité peu commune qui força l'admiration des invités. Son caractère frivole et quelque peu puéril ne paraissait la prédisposer à aucune activité sérieuse. Mais lorsqu'elle s'asseyait au clavecin, elle se transformait en une jeune fille toute différente, à laquelle sa maturité inattendue donnait des airs d'adulte. Il en fut toujours ainsi. Au vrai, elle n'avait pas de vocation bien précise, mais avait réussi à obtenir les meilleures notes par une discipline inflexible et pour ne pas contrarier sa mère. Lui aurait-on imposé l'apprentissage de n'importe quel autre métier, les résultats eussent été les mêmes. Depuis sa tendre enfance, elle avait subi la sévérité de Fernanda, sa manie de décider pour les autres, et, plutôt que de se heurter à son intransigeance, elle aurait été capable de sacrifier beaucoup plus pénible que de simples leçons de clavecin. Le jour de la cérémonie de clôture, elle eut l'impression que le diplôme ou lettre gothique, avec ses majuscules enluminées, la libérait d'un engagement auquel elle avait consenti par commodité plutôt que par soumission. Et elle s'imagina que l'opiniâtre Fernanda ne reviendrait plus désormais sur cet instrument que les religieuses elles-mêmes considéraient comme un fossile de musée. Les premières années, elle crut que ses calculs étaient faux, car non contente d'avoir endormi la moitié de la population par des récitals donnés au salon, mais également dans toutes les soirées de bienfaisance, matinées scolaires et commémorations patriotiques qui s'organisaient à Macondo, sa mère ne se découragea pas d'inviter tout nouvel arrivant qu'elle supposait capable d'apprécier les dons de sa fille. Ce n'est qu'après la mort d'Amaranta, quand la famille se cloîtra pour une nouvelle période de deuil, que Mémé put refermer son clavecin et égarer la clé dans quelque armoire sans que Fernanda prît la peine de vérifier à quel moment et par la faute de qui elle s'était trouvée perdue. Mémé supporta ses exhibitions aussi stoïquement qu'elle s'était consacrée à son apprentissage. C'était le prix de sa liberté. Fernanda était si satisfaite de sa docilité et si fière de l'admiration que suscitait son art qu'elle ne s'opposa jamais à ce que ses amis envahissent la maison, à ce qu'elle passât l'après-midi dans les plantations ou accompagnât au cinéma Aureliano II ou des femmes en qui elle avait confiance, pourvu que le film n'eût pas été déconseillé en chair par le père Antonio Isabelle. En ces moments de gaie distraction se révélaient les véritables goûts de Mémé. Son bonheur était à l'extrême opposé de la discipline, dans les fêtes bruyantes, les confidences amoureuses, les longues réunions secrètes entre amis où elles apprenaient à fumer et parlaient de questions d'hommes, et où il leur arriva une fois de dépasser la mesure, ayant ingurgité 3 bouteilles de rhum et se retrouvant toutes nues en train de jauger et comparer chacune des parties de leur corps. Mémé ne devait jamais oublier cette soirée où elle rentra à la maison en mâchonnant des bâtons de réglisse, et sans que personne remarquât son bouleversement, prit place à la table où Fernanda et Amaranta dînaient sans s'adresser la parole. Elle avait passé dans la chambre d'une amie 2 heures terribles à pleurer de rire et de peur à la fois, et par-delà cette crise avait découvert ce si précieux courage qui lui avait fait défaut pour s'enfuir de la pension et dire à sa mère, de cette manière plus crûment encore, qu'elle pouvait bien se mettre son clavecin quelque part. Assise au haut bout de la table, buvant un bouillon de poulet qui lui tombait dans l'estomac comme un élixir de résurrection, Mémé découvrit alors Fernanda et Amaranta entourés du halo accusateur de la réalité. Elle dut faire un grand effort pour ne pas leur jeter à la face tout ce qui n'était chez elle qu'affectation, pauvreté d'esprit, folie des grandeurs. Elle savait déjà depuis ses secondes vacances que son père ne vivait à la maison que pour sauver les apparences. Et, connaissant Fernanda comme elle la connaissait, s'étant arrangée par la suite pour faire la connaissance de Petra Cottès, elle donna raison à son père. Tout comme elle-même aurait préféré être la fille de la concubine. Un peu éméchée sous l'effet de l'alcool, Mémé songeait avec volupté au scandale qu'elle aurait provoqué en exprimant à haute voix ce qui lui passait alors par la tête. Et cette espièglerie lui procura une satisfaction si intense que Fernanda ne fut pas sans la remarquer. « Qu'est-ce qui t'arrive ? » lui demanda-t-elle. « Rien, » répondit Mémé. « Rien sinon qu'il m'a presque fallu attendre ce soir pour découvrir combien je vous aime. » Toute la charge de haine manifestement contenue dans cette déclaration glaça Amaranta. Mais Fernanda en fut si bouleversée qu'elle crut devenir folle lorsque Mémé se réveilla sur le coup de minuit, la tête prête à éclater tant elle souffrait, vomissant des torrents de bile qui la faisaient s'étouffer. Elle lui administra une fiole d'huile de castor, lui posa des cataplasmes sur le ventre et des vessies de glace sur la tête, et lui imposa une diète et un isolement complet de 5 jours, ordonné par le nouvel et extravagant médecin français qui, après l'avoir examiné pendant plus de 2 heures, en était arrivé à la nébuleuse conclusion qu'elle était atteinte de quelque maladie de femme. Le courage abandonna Mémé, qui, dans un lamentable état de démoralisation, n'eut d'autre recours que de prendre son mal en patience. Ursula, déjà tout à fait aveugle mais encore active et lucide, fut la seule à pressentir quel pouvait être le diagnostic exact. « Pour moi, se dit-elle, ça ressemble en tout point à ce qui arrive au pochard. » Mais elle chassa cette idée de son esprit et alla même jusqu'à se reprocher d'avoir des pensées si futiles. Aureliano le second sentit sa conscience le tirailler lorsqu'il vit Mémé ainsi prostrée et se jura de s'occuper d'elle à l'avenir. C'est ainsi que naquirent entre le père et la fille des rapports de franche et joyeuse camaraderie qui devaient libérer provisoirement le premier de l'amère solitude de ses fêtes et libérer la seconde de la tutelle de Fernanda sans avoir à provoquer cette crise domestique qui paraissait déjà inévitable. Aureliano le second renvoyait alors tous ses engagements à plus tard afin de rester avec Mémé et de l'emmener au cinéma ou au cirque et lui consacrait la plus grande partie de ses loisirs. Ces derniers temps, la gêne provoquée par cette monstrueuse obésité qui l'empêchait déjà de lasser ses propres souliers, ainsi que la satisfaction abusive de toutes sortes d'appétits, avaient commencé de lui aigrir le caractère. La découverte de sa propre fille le rendit à son ancienne jovialité, et le goût qu'il avait de se trouver en sa compagnie l'écarta progressivement de la débauche. Mémé accédait à l'âge où la jeune fille en fleurs devient fruitière. Elle n'était pas belle, comme ne le fut jamais Amaranta, mais en revanche, elle attirait la sympathie, n'était pas compliquée pour un sou et faisait tout de suite bonne impression. Elle avait une tournure d'esprit moderne qui heurtait la retenue vieillotte de Fernanda et le cœur avare qu'elle dissimulait mal, mais qui trouva en revanche un défenseur en Aureliano le second. Ce fut lui qui décida de lui faire quitter la chambre à coucher qu'elle occupait depuis l'enfance, où les yeux farouches des statues de saints continuaient à alimenter ses terreurs d'adolescente, et meubla pour elle une chambre pourvue d'un lit de reine, d'une large coiffeuse et de tentures de velours, sans se rendre compte qu'il était en train de confectionner une seconde version de la propre chambre de Petra Cottès. Il se montra si prodigue avec Mémé qu'il ne savait même pas combien d'argent il lui donnait, pour la bonne raison qu'elle puisait elle-même dans ses poches, et il la tenait au courant de tous les nouveaux produits et accessoires de beauté qui arrivaient au comptoir de la compagnie bananière. La chambre de Mémé se remplit de fragments de pierre ponce pour se polir les ongles, de fer à friser, de pâte pour avoir une denture éclatante, de collyre pour rendre le regard plus langoureux, de tant de cosmétiques et maquillages si nouveaux que chaque fois qu'elle entrait dans cette pièce, Fernanda était scandalisée à l'idée que la coiffeuse de sa fille devait être en tout point identique à celle des matrones françaises. À cette époque, cependant, Fernanda partageait tout son temps entre la petite Amaranta Ursula, capricieuse et maladive, et de palpitants échanges de correspondance avec les médecins invisibles. Si bien que lorsqu'elle s'aperçut de la complicité qui régnait entre le père et la fille, la seule promesse qu'elle put arracher à Aureliano le second fut qu'il n'emmènerait jamais Mémé chez Petra Cottès. Cette admonition n'avait d'ailleurs aucun sens, car la concubine était si indisposée par la camaraderie qui s'était établie entre son amant et sa fille qu'elle ne voulait pas entendre parler de cette dernière. Une crainte jusqu'alors inconnue la tourmentait, comme si son instinct lui laissait entendre que Mémé n'avait qu'à lever le petit doigt pour obtenir ce qui s'était toujours vu refuser à Fernanda, qu'elle-même se retrouva privée d'un amour qu'elle avait déjà tenu pour assuré tant qu'elle vivrait. Pour la première fois, Aureliano dut endurer que sa concubine lui fît la tête et supporter ses railleries empoisonnées et en vint à appréhender que ses mâles, transportés d'un domicile à l'autre, ne reprissent le chemin de celui de sa légitime épouse. Ceci n'arriva point. Nul ne connaissait son homme mieux que Petracotès, son amant, et elle savait que les mâles resteraient là où on les ferait porter, pour cette raison qu'Aureliano le second ne détestait rien tant que de se compliquer la vie avec des rectifications et des déménagements. Les mâles restèrent donc là où elles étaient, et Petracotès s'évertua à reconquérir le mari en aiguisant les seules armes dont la fille ne pouvait faire usage pour le lui disputer. Effort tout aussi inutile, car Mémé n'avait jamais eu le dessein d'intervenir dans les affaires de son père, et, s'en fût-elle mêlée, c'eût été en faveur de la concubine. Elle n'avait pas assez de temps à elle pour trouver celui d'ennuyer personne. Elle balayait elle-même sa chambre et faisait son lit comme lui avaient appris les religieuses. Au cours de la matinée, elle prenait soin de ses vêtements, brodant sous la véranda ou cousant sur la vieille machine à manivelle d'Amaranta. Tandis que les autres faisaient la sieste, elle s'exerçait pendant 2 heures au clavecin, sachant que grâce à ce sacrifice journalier, Fernanda garderait l'esprit en repos. Pour le même motif, elle continua à donner des récitals à l'occasion de ventes ecclésiastiques et de soirées scolaires, bien que les sollicitations se fissent de moins en moins fréquentes. En fin d'après-midi, elle s'arrangeait un peu, revêtait une toilette des plus simples, chaussait ses dures galoches et, si rien ne la retenait auprès de son père, elle se rendait chez des amis où elle restait jusqu'à l'heure du dîner. Sauf exception, Aureliano le second venait alors la chercher pour la conduire au cinéma. Parmi les camarades de Mémé se trouvaient 3 Nord-Américaines qui avaient rompu le barrage électrifié de leur poulailler pour venir se lier d'amitié avec des jeunes filles de Macondo. L'une d'elles était Patricia Brown. Reconnaissant de l'hospitalité que lui avait offerte Aureliano le second, Mr. Brown ouvrit sa maison à Mémé et l'invita au bal du samedi qui étaient bien les seuls où les Amerlocs acceptaient de se mêler aux autochtones. Quand Fernanda l'apprit, elle oublia momentanément Amaranta, Ursula, ainsi que les médecins invisibles, et fit tout un mélodrame. « Imagine un peu ce que va penser le colonel dans sa tombe » dit-elle à Mémé. Bien entendu, elle cherchait ainsi le soutien d'Ursula. Mais la vieille aveugle, contrairement à ce que tout le monde attendait, considéra qu'il n'y avait rien de répréhensible à ce que Mémé se rendît à ses bals et entretint des liens d'amitié avec les Nord-Américaines de son âge, pourvu qu'elle gardât sa fermeté de jugement et ne se laissa point convertir à la religion protestante. Mémé saisit fort bien la pensée de son arrière-grand-mère et au lendemain de chaque bal, elle se levait plus tôt que d'habitude pour se rendre à la messe. L'opposition de Fernanda tint bon, jusqu'au jour où Mémé put la désarmer en l'informant que les Nord-Américains désiraient l'entendre jouer du clavecin. Il fallut une fois de plus sortir l'instrument de la maison et le porter jusque chez Mr. Brown, où effectivement la jeune interprète reçut les plus sincères applaudissements, les félicitations les plus enthousiastes. Dès lors, on l'invita non seulement au bal, mais aussi à venir se baigner le dimanche dans la piscine et déjeuner une fois par semaine. Mémé apprit à nager comme une championne, à jouer au tennis et à manger le jambon de Virginie avec des tranches d'ananas. Entre les bals, la piscine et les parties de tennis, elle sut rapidement se débrouiller en anglais. Aureliano le second fut tellement ravi des progrès de sa fille qu'il acheta à quelques colporteurs une encyclopédie anglaise en 6 volumes, comportant de nombreuses planches en couleur, et que Mémé se mit à lire durant ses heures de liberté. La lecture mobilisa toute l'attention qu'elle portait jusque-là avec ses amis aux confidences amoureuses ou aux expériences en petit comité. Non qu'elle se l'imposât comme une discipline, mais parce qu'elle avait déjà perdu tout intérêt à débattre de tels mystères tombés dans le domaine public. Elle se souvenait de leur scène d'ivresse comme d'une aventure enfantine, et elle lui semblait si drôle qu'elle la narra à Aureliano le second qui parut s'en divertir encore plus qu'elle. « Si ta mère savait ça !» dit-il en pouffant de rire, comme il lui disait toujours chaque fois qu'elle lui faisait une confidence. Il lui avait fait promettre qu'elle le tiendrait au courant de sa première liaison, avec la même confiance. Et Mémé lui avait raconté qu'elle sympathisait avec un rouquin du Nord qui était venu passer ses vacances auprès de ses parents. « Quelle horreur !» fit Aureliano le second en riant. « Si ta mère savait ça !» Mais Mémé lui confia également que le jeune homme s'en était retourné dans son pays et n'avait plus donné signe de vie. Sa maturité d'esprit garantissait la paix domestique. Aureliano le second consacrait alors davantage de son temps à Petracotès, et bien qu'il n'eût plus le corps ni l'âme assez solide pour s'adonner à des fêtes comme celles d'autrefois, il ne perdait pas une occasion d'en organiser et de sortir de son étui l'accordéon dont quelques touches se trouvaient déjà rafistolées à l'aide de lacets de souliers. À la maison, Amaranta continuait de broder son interminable linceul, et Ursula se laissait entraîner par la décrépitude vers les bas-fonds des ténèbres où plus rien n'était visible pour elle que le spectre de José Arcadio Buendía sous son châtaignier. Fernanda affermissait son autorité. Ses lettres mensuelles à son fils José Arcadio ne comportaient plus une ligne de mensonge, et elle se bornait à dissimuler sa correspondance avec les médecins invisibles qui lui avaient diagnostiqué une tumeur bénigne au gros intestin et s'employaient à la préparer en vue de pratiquer sur elle quelque intervention par télépathie.